après les municipales, place aux grands entretiens. Les maires au micro sur Tendance Ouest.
Bonjour à toutes et à tous. Ce midi, votre émission L'invité du mercredi sera plus longue que d'habitude. Nous allons passer une heure avec le maire de Caen, Aristide Olivier. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Une heure d'interview durant laquelle nous allons balayer tous les sujets. On va évoquer ensemble les grands projets qui vont dessiner la ville dans les prochaines années. Nous reviendrons sur vos promesses de campagne puisqu'on le rappelle, le 22 mars dernier, vous remportiez les élections municipales. Votre première en tant que tête de liste avec 59% des voix au second tour. Mais avant de parler de projets, de décisions, on va parler de vous, de l'homme derrière le politique. Avant de vous engager à plein temps dans le monde politique, vous étiez instituteur, c'est ça ?
Oui, j'ai enseigné 20 ans en CM1, CM2 et notamment, quasiment exclusivement à l'école Lyautey à Caen. J'étais directeur d'école et puis en 2014, quand j'ai été élu, je suis resté enseignant, mais j'étais plus directeur puisque j'étais plus à temps plein. J'avais même le souhait, quand j'ai été élu en 2024, de pouvoir rester encore une journée à l'école avec les élèves. Bon, j'ai tout de suite vu que la fonction de maire était trop prenante et qu'il fallait que j'arrête. Mais c'était 20 vraiment très belles années.
Ça vous manque parfois ce contact avec les enfants ?
J'essaie de retourner dans le cadre notamment de ma fonction de maire très souvent dans les écoles. Ça me manque pas au quotidien parce que je suis tellement pris que j'ai pas le temps trop d'y penser. En revanche, à chaque fois que je retourne sur un site scolaire et notamment dans mon école, j'ai toujours un pincement au cœur parce que c'était formidable. Voilà, essayer de former les jeunes enfants, c'était vraiment un métier. Et en plus, je l'exerçais avec une équipe autour de moi extraordinaire et je suis resté ami d'ailleurs avec quasiment toutes mes collègues. Donc voilà, j'ai pas trop le temps d'y penser, mais à chaque fois que je suis sur site, je me dis que c'était quand même un beau métier. Oui.
C'est une vocation ce métier, un métier passion ?
J'ai toujours voulu transmettre, j'ai toujours voulu être enseignant. Ça a toujours été mon souhait. Alors au début, pour dire la vérité, je pensais plutôt que je serais enseignant en CP, je voulais apprendre à lire aux enfants. Et puis comme j'ai été directeur dès ma première année d'enseignement, j'ai remplacé une directrice qui était depuis longtemps, qui avait le CM1, CM2, et donc je suis resté avec les grands longtemps, et puis finalement après quand j'étais à mi-temps, c'était plus pratique d'être à mi-temps dans une classe de CM2 qu'en CP.
Et ça vous a plu ?
Ah oui, vraiment, c'était c'est une belle période de ma vie.
Vous êtes aussi un grand passionné de sport.
Ça, c'est sûr.
Dimanche, vous étiez au départ du 10 km sur le Marathon de la Liberté. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est plutôt bien passé. J'avais peur d'avoir mal aux jambes, mal aux cannes, comme on dit. Mais au final, on a un parcours qui est complètement urbain. Les gens étaient extrêmement gentils avec moi, faut que je le reconnaisse. Ils m'ont beaucoup porté. Ils m'ont incité justement à y aller au maximum. Et du coup, j'ai trouvé ça assez facile parce que comme il y avait beaucoup de monde sur le... C'est pas quand vous êtes tous seul à faire votre footing. Là, c'était portant, donc c'était très agréable. J'aime bien ce parcours, en plus, en hyper cœur de ville. Je trouve vraiment très sympa.
Vous courez souvent ?
Alors, pour dire la vérité, non, mais... Depuis mon élection fin mars, j'ai demandé qu'on me libère un créneau d'une heure et demie le jeudi matin, de démarrer qu'à 9h30 pour pouvoir aller courir. Je dépose mes enfants à l'école et puis ensuite je vais courir. Alors ça, c'est la règle. La réalité, c'est que demain je ne ferai pas de footing puisque, par exemple, il faut que je voie c'était l'heure sur le créneau les architectes du futur musée Gondure pour les rencontrer. Je sais que la semaine prochaine, ça a aussi des difficultés. C'est terrible. Mais donc oui, je vais essayer de recourir au moins une fois par semaine.
Et donc dans un an, on vous retrouve toujours sur le 10 km, sur le semi, le marathon ?
Alors non, je serai sur le semi, puisque j'ai pris un engagement et j'ai bien l'intention de le tenir. Les Courants de la Liberté vont fêter leurs 40 ans l'année prochaine. Et le président historique est venu me voir, il était là ce week-end, Yves Martin, des Courants de la Liberté, et m'a dit l'année prochaine... on fait le semi ensemble pour les 40 ans des courants, donc j'ai dit ok.
Le rendez-vous est pris.
Ouais.
Un dimanche très sportif, puisque vous étiez, comme beaucoup de Canets, devant le match des Vikings.
Oui, je suis allé... initialement, c'était même prévu que j'aille là-bas sur place. Et puis, il y avait aussi les cérémonies liées, évidemment, cérémonies commémoratives. Et donc, j'avais la cérémonie des Canadiens au Mémorial. Et donc, c'était trop tard pour que je me rende ensuite à Ivry, à Créteil, là où ils ont joué. Donc, je suis allé au Palais des Sports. C'était vraiment du... Quand on aime le sport, c'est vraiment pour ce type de soirée qu'on l'aime, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité, un scénario incroyable, parce qu'on a mené tout le match, et puis finalement, dans la dernière minute, on se dit que ça va nous échapper. Des tirs au but que moi, j'avais jamais vu au hand. Oh, c'était une soirée vraiment formidable. Alors, ça a duré, hein, parce qu'en plus, je les ai retrouvés ensuite dans la nuit, parce que j'avais dit au président, voilà, c'est historique quand même pour le club. Et puis moi, je les ai suivis aussi en tant qu'adjoint au sport. J'ai connu ce club au tout début de son démarrage, au tout début de sa construction. Thomas, c'est un président qui est hyper attachant. Parce qu'il a franchi des étapes parfois contre vents et marées en croyant à ce projet. On l'a beaucoup accompagné, hein, puisque à la fois la création de la halle sportive Saint-Jean-Rude sur le quartier de Saint-Jean-Rude pour faire un lieu unique de pratique du hand, pour qu'on puisse avoir les locaux du club jusqu'à ce nouveau événement Palais des Sports. La première chose, il m'a dit jamais sans Palais, on n'aurait jamais pu arriver en Star League. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était normal que j'aille les féliciter. Bon, on s'est couché un peu tard, mais c'est aussi ça le sport, c'est des grands moments. Ils vont peut-être qu'une montée dans l'histoire du club, donc ça me semblait évident que d'être là.
Oui, espérons qu'il reste ensuite à ça, en
Star League. Et on fera tout pour. Et j'ai eu encore Thomas Lamora plusieurs fois au téléphone. La ville accompagnera évidemment de manière importante le club l'année prochaine, va accompagner cette montée. On fera un effort considérable, notamment sur le plan de la subvention, pour que ce soit pas justement une année, mais que le club puisse rester durablement dans cette division. On va quand même jouer Paris, Nantes, Montpellier, des références au niveau européen. Je suis très heureux, vraiment. Et puis c'est très bon pour l'image de Caen, pour son rayonnement. On voit bien qu'il y a un vrai public de sport à Caen. C'est pas parce que moi j'aime le sport à titre personnel. Le Palais des Sports est plein tout le temps, que ce soit du hand, du basket, les sports de combat, le tennis. Il y a un vrai attachement, donc je suis très heureux pour la ville et pour le club.
Et justement, ce Palais des Sports, beaucoup savent que vous êtes l'un des grands artisans de sa création, puisque vous l'avez encouragé, puis vous l'avez suivi de A à Z. Mais on sait peut-être un peu moins, c'est vous qui êtes à l'origine de l'Open de Caen, qui va fêter ses 20 ans cette année. Le tennis, c'est votre passion numéro une, votre sport numéro un.
Disons que c'est le sport familial numéro un, puisque je suis le dernier, j'ai un frère et une sœur. Mon frère est prof de tennis, ma sœur était numéro 15 française, donc elle fait Roland-Garros, alors que mes parents n'ont jamais pris une raquette de tennis de leur vie. C'était nos voisins qui étaient profs de tennis, et donc ont pris mon frère l'aîné, puis ma sœur, puis moi. Et puis voilà, donc ça faisait partie presque du mouvement normal d'être au tennis. Alors moi j'ai moins joué que mon frère et ma sœur. Ils m'ont souvent taquiné en me disant que j'étais devenu président du club parce que j'étais pas assez fort sur le terrain de tennis. Bon, je sais jouer au tennis, hein. Mais voilà, c'était le sport de manière générale. Mais effectivement, je suis allé à Roland-Garros, j'ai suivi ici ou là, j'ai allumé la télé dans le bureau du maire, dans mon bureau, pour voir la fin de Kwame, puisqu'on m'a dit qu'il était au super tie-break du 5e. Mais je trouve que ce qu'il y a dans le sport, on peut le retrouver dans d'autres domaines, mais c'est cette intensité à des moments qui est vraiment très intense comme intensité, et parfois on le prévoit pas. Un match de tennis, ça joue sur quelques balles. Le hand, franchement, à la limite de la fin, quand Ivry a la balle, on pense que c'est foutu, puis finalement on la récupère, on marque à 3 secondes de la fin. C'est ça que j'aime. Et puis ce moment de partage, moi j'étais au Palais, j'étais à la fin, j'ai envahi le terrain comme les autres supporters, on sautait ensemble. Finalement, c'est des espèces de parenthèses, je trouve, ce sport où on peut vivre ensemble des émotions partagées, peu importe d'où on vient. Je trouve que ça rassemble. Il y a encore peu de choses dans cette société qui rassemble, et le sport, il a cette faculté. Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis voilà, je suis né dedans, donc je le renierai jamais. Parfois, on me dit, il faut que tu parles un peu moins de sport, parce que voilà, tout le monde sait. Mais je suis tel que je suis, et j'aime le sport, et j'aimerai toujours le sport.
Peut-être qu'on pourra faire des parallèles entre le sport et la politique. Pour revenir sur le sujet de la politique, à partir de quel moment vous êtes engagé et pourquoi?
C'est le sport qui m'a amené à la politique. J'étais président du tennis club de Caen, j'avais créé l'Open de tennis. Je suis effectivement très heureux d'ailleurs qu'il pète ses 20 ans au mois de décembre, parce qu'on m'avait dit que ça ne durerait que 5 ans, que maximum le tournoi durerait 5 ans, puis qu'il allait s'éteindre. 20 ans après, il est toujours là et il fait le plein. Et puis le maire de l'époque, Brigitte Le Breton, m'avait appelé et m'avait demandé à me voir en me disant ça m'intéresserait. Et j'ai toujours été passionné par le faire. Moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est le faire. Donc je lui ai tout de suite dit oui, ça m'intéresse. D'ailleurs, je lui avais préparé à l'époque un dossier de 30 à 40 pages sur ce que je pensais faire pour le sport à Caen, déjà à l'époque, en 2008. Bon, c'était une grosse défaite, hein, c'était le maire sortant, elle a perdu. Et puis ensuite, bah, évidemment, j'ai participé au développement du club, je suis resté dans le tennis, dans l'associatif, et en 2014, bah, voilà, j'ai été rappelé, et puis ça a fonctionné. Mais c'est un parcours assez inédit, j'étais pas du tout prédisposé à faire de la politique. Mes parents n'en ont jamais fait. J'ai pas été biberonné à la politique très tôt dans le militantisme. En revanche, j'ai toujours eu très jeune l'envie de faire. Le Yaka Faucon m'énerve beaucoup. Je préfère être critiqué pour ce que je fais plutôt que d'être à côté des choses. Là, j'avais cette possibilité de pouvoir agir pour le sport pendant les 10 premières années de mandat. J'ai aussi aimé, je m'y suis mis à 200%. Et puis ensuite, voilà, cette succession s'est opérée assez naturellement.
Est-ce que vous vous imaginiez devenir maire ?
C'est difficile de répondre à cette question maintenant que j'y suis. Est-ce que quand j'ai démarré la politique, je me suis dit que je serais maire de Caen ? Non, en revanche, l'envie de vraiment d'agir pour Caen. Alors par contre, mon entourage me l'a toujours dit. C'est-à-dire que mon entourage, depuis longtemps, m'a toujours dit « Ah, toi, un jour, tu feras de la politique et tu seras maire de Caen ?» Parce que j'ai... c'est totalement d'ailleurs parfois irrationnel. N'importe où j'allais et où je vais encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est plus normal, j'ai toujours trouvé Caen était une île formidable. Alors j'y suis né, mais vraiment à chaque fois que je vais ailleurs, je me dis que qu'on a beaucoup de chance de vivre à Caen. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut pas dire que tout va bien, je ne vis pas dans le monde des bisounours, c'est pas ça le sujet. Mais je pense vraiment que c'est une ville qui est bien équilibrée, qui est aérée, qui est agréable à vivre, qui est belle, c'est une belle ville, qui est vibrante. Quand on parlait du sport, on a beaucoup de vibrations. Et donc tout le monde me dit « Oh, t'aimes tellement ta ville, un jour t'en seras maire ». Mais moi, à titre personnel, c'est venu après. En revanche, quand j'ai été élu et que Joël... avait tout de suite dit qu'il ferait que deux mandats. Joël Bruno, mais pardon. Avant même qu'il y ait dissolution et que ça se fasse plus vite que prévu, je lui avais toujours dit, le jour où t'arrêteras, oui, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que d'avoir un spectre plus large que celui du sport, de pouvoir essayer d'amener la ville là où je pense qu'elle doit aller, ça, oui, je lui ai tout de suite dit, mais pas avant, non.
Maintenant que nous savons qui vous êtes, nous voulons en savoir plus sur ce que vous allez changer à Caen. On va passer en revue les grands projets qui dicteront l'avenir de la ville. Il y en a un annoncé depuis plusieurs années, mais qui peine à débuter pour le moment, c'est celui de la transformation du palais Fontette, l'ancien palais de justice, qui doit devenir un complexe mêlant hôtel de luxe et centre de congrès. On en est où sur ce dossier ?
Vous avez raison, c'est un dossier stratégique. Juste petite parenthèse d'ailleurs, on parle souvent des grands projets, mais ce qui fait aussi la richesse de cette ville, c'est par exemple ce matin, j'ai vu 12 canets en rendez-vous pendant 20 minutes dans des problèmes du quotidien. Et je pense que justement, pour avoir cette ville équilibrée, il faut à la fois parler des grands projets, et je vais répondre évidemment à votre question, et puis d'être omniprésent sur aussi le quotidien de ce qui fait la qualité de vie, un trou dans un trottoir, des problèmes de poubelle, de voisinage. Et je pense vraiment qu'il faut garder les deux, et en tout cas moi c'est la ligne de conduite que je me suis fixée. Le Palais Fontette, c'est un projet stratégique qui est toujours d'actualité. Il a plusieurs enjeux. Il a un enjeu de tourisme d'affaires. À Caen, on a un déficit aujourd'hui dans nos capacités d'accueil. Notre centre de congrès est vieillissant. On a une offre hôtelière qui est insuffisante. D'ailleurs, c'est pas un hôtel de luxe. Hein, c'est un hôtel plutôt haut de gamme, mais pas un hôtel de luxe tel qu'on peut parfois l'entendre, par exemple, à l'échelle de Paris. Et donc, ce projet, il reste d'actualité pour ce levier-là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, je crois, un potentiel pour continuer à développer notre tourisme d'affaires, en lien évidemment avec le Parc Expo. Donc, c'est pour ça que ce projet me semble important. Il y a un deuxième enjeu, c'est l'aspect patrimonial, puisque c'est quand même un bâtiment absolument magnifique.
Et classé.
Oui, bien sûr. Dont la ville, évidemment, est propriétaire, restera propriétaire, puisque nous avons ensuite lancé un appel à projet pour répondre à cette volonté, justement, de tourisme d'affaires. Il y a un premier permis qui avait été déposé. Il a été annulé par le tribunal administratif après des recours en mai 2025. Le porteur de projet et la ville ont fait appel en juillet 2025. Donc, cet appel est lancé. Et un nouveau permis a été déposé le 31 mars de cette année, en 2026, qui répond aux mêmes enjeux, hein, 160 chambres, c'est un centre des congrès d'environ 500 places. On est toujours là, dans ce projet, et j'espère bien qu'il va aboutir.
Alors on va faire une petite pause à récit d'Olivier, on poursuit cet échange dans quelques minutes, on va revenir sur ce palais Fontette, évoquer aussi ensemble parking, logement ou port de Caen. À tout de suite. De retour sur Tendance Ouest pour cette grande interview du maire de Caen, ici d'Olivier. Une heure d'échange pour mieux vous connaître et mieux découvrir vos projets pour la ville de Caen. Alors on parlait tout de suite, juste avant la pause, du palais Fontette. Concrètement, quel calendrier maintenant, à quoi on peut s'attendre pour ces travaux ?
Donc le nouveau permis a été déposé le 31 mars dernier. Donc bon, comme c'est un bâtiment historique, il faut 6 mois d'instruction. Donc ça veut dire que après l'été, on devrait avoir... normalement la délivrance de ce permis. Et ensuite, j'espère qu'il y aura pas de recours cette fois, ce qui permettra ensuite d'envisager ces travaux, qui sont des travaux qui dureront quand même au minimum 2 ans. Mais c'est vraiment un beau projet qui a vraiment cet enjeu et de tourisme d'affaires et de qualité architecturale. Et nous, derrière, évidemment, on rénovera aussi les espaces publics qui sont devant pour faire une belle place Fontette.
Alors, il y a évidemment tout un tas de projets en route à Caen. On peut citer pêle-mêle l'extension du réseau de tramway, le bâtiment L'Écrin, boulevard...
Je crois que tout le monde s'en est rendu compte pour le tramway.
Concrètement, oui, avec les travaux, en effet. Le bâtiment L'Écrin, boulevard Maréchal Leclerc. Beaucoup de gens qui passent en centre-ville s'en sont rendus compte aussi. Il y aura l'immeuble Cascade près des rives de l'Orne, le musée Gandur près de la colline aux oiseaux, le jardin République sur la place de la République. Mais il y a aussi des secteurs où les projets restent à définir. L'une des grandes ambitions de votre mandat, c'est la reconfiguration du port de Plaisance. Le port de Caen, concrètement, à quoi il va ressembler dans les prochaines années ?
Pour moi, c'est un enjeu stratégique qui s'intègre, vous avez donné d'autres exemples d'engagements que j'ai pris dans cette campagne, qui seront d'ailleurs établis dans un calendrier, dans le plan pluriannuel d'investissement qu'on présentera au plus tard à l'automne, pour que les Caennais sachent, parce qu'on ne va pas tout faire en 2026 ou en 2027. Le port, c'est un dossier stratégique de reconfiguration totale. Donc c'est un dossier qui va prendre du temps, et ça va pas être pour l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'enjeu pour moi, c'est que il y a peu de villes de plus de 100 000 habitants qui ont un port en cœur de ville. Il n'y en a pas beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, il est complètement sous-exploité. Il n'est pas très beau. D'ailleurs, quand vous arrivez, vous ne le voyez pas nécessairement, puisqu'il y a beaucoup de voitures devant. Et donc, il va falloir qu'on mène une étude assez approfondie, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'enjeu, évidemment, de l'eau, des animations, des parkings, pour faire en sorte que, voilà, on arrive à trouver un projet qui permette d'avoir un vrai lieu d'attractivité, un vrai lieu de vie, qui nous différencie. Il sera en plus le trait d'union entre le cœur historique de Caen et la presqu'île. Je crois beaucoup à ce projet, mais il va mettre du temps parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs à mettre autour de la table, entre les commerçants, les riverains, évidemment. On a vraiment beaucoup d'éléments à travailler avant d'arriver à un projet totalement ficelé. Mon objectif, c'est quand même de démarrer les études dès cette année 2026, pour qu'on puisse envisager des débuts de travaux à la fin du mandat.
Donc plutôt un projet de fin de mandat.
Ah oui.
Est-ce que ce sera le plus gros investissement du mandat ?
De manière isolée, pas nécessairement, parce que parfois il y a des choses qui peuvent coûter aussi pas mal d'argent. J'ai mis dans mon programme un enjeu très fort dans la rénovation et la mise en valeur de nos monuments historiques. Donc ce sont des lignes budgétaires qui coûtent beaucoup d'argent.
Le patrimoine coûte cher.
Le patrimoine coûte cher, mais c'est indispensable. On voit bien qu'aujourd'hui, il souffre. L'église Saint-Pierre, j'ai pour ambition de la terminer. L'église qui est rue Saint-Pierre et qui est aujourd'hui dans un beau filet depuis 2-3 ans, j'ai l'obligation de le faire. Mais rien que ces deux projets-là, église Saint-Pierre et église Saint-Sauveur, c'est 20 millions d'euros. Rien que pour ces deux églises-là. Mais je crois vraiment qu'on a besoin de mettre le paquet sur le patrimoine. Donc, ça fera partie des très gros projets. En tout cas, très structurant, c'est sur le port. Alors, on n'a pas de chiffrage encore précis, puisqu'il faut d'abord que les études soient menées. Mais c'est effectivement un des plus gros sujets structurants des 10 prochaines années pour Caen.
Est-ce que vous avez déjà une première ébauche de ce à quoi il pourrait ressembler ? On peut penser, par exemple, aux terrasses déportées, qui ont du succès,
oui,
lors de chaque printemps-été. Elles sont dans des conteneurs qu'on déplace à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait imaginer des terrasses qui resteraient à
oui,
l'année, par exemple ?
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut l'imaginer. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit agréable, accessible en famille, qu'on ait vraiment cet accès à l'eau qui soit favorisé, tout en ne disant pas les voitures du balai, parce que sinon, il n'y aura pas d'attractivité du site. Donc, il faut qu'on trouve des endroits où on peut mettre des voitures non plus en nappe, mais plutôt en hauteur. Ici, on ne pourra pas creuser, hein. Donc on ne pourra pas mettre de voiture en dessous. Il faut qu'on arrive à penser tout ça, évidemment, un espace très vert, très végétalisé, un vrai espace de vie. Je pense que c'est vraiment possible aujourd'hui, hormis ces terrasses déportées, on y vient finalement assez peu comme destination familiale. Je veux vraiment que ça devienne un vrai lieu de vie.
Donc les parkings sur le port sont amenés à disparaître ?
Dit comme ça, on pourrait croire qu'on va les supprimer. Non. Je pense que le volume de voitures doit rester dans cette emprise, mais organisé de manière différente. Bon là, il faut que je sois plus concret, parce que sinon c'est difficile à voir. Concrètement, aujourd'hui, elles sont toutes à plat sur l'espace public. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on prenne moins de place sur l'espace public, mais qu'on les mette en hauteur pour mettre autant de voitures.
C'est le fameux parking en silo.
C'est le parking en silo. Par exemple, sur l'îlot Trébucien, ce qu'on appelle l'îlot Trébucien, c'est-à-dire au bout du port, en ce moment où on a la construction d'une résidence, on a un terrain qui appartient à la ville. J'ai demandé qu'on étudie la possibilité d'ici d'y construire un parking. Oui.
Et est-ce qu'il y a aussi ce projet de construire un parking sur la place de la Mare ?
Ce qui est sûr, c'est que je veux qu'on crée une offre supplémentaire, non pas pour dire venez en voiture dans Caen, parce que je vois bien que mes opposants essayent de me donner cette caricature, c'est pas du tout cela. Sauf qu'il faut se dire que Caen ne peut pas vivre qu'avec ceux qui vivent intramuros. On a besoin, si on veut garder ce rôle de capitale régionale, de faire venir des gens qui habitent à 40 ou 50 kilomètres. Et ils ne viendront jamais, et c'est pas à vélo. Et c'est pas antinomique. Bien sûr que je vais continuer à développer les pistes cyclables. Bien sûr que je vais faire en sorte que les mobilités douces se développent à Caen. Mais je crois qu'on a besoin de poches supplémentaires. La place de la Mare, c'est une piste. Elle n'est pas encore totalement arbitrée parce qu'elle est en étude technique. Il y en a peut-être d'autres à côté de la piscine. Voilà, on est en train de regarder ce qu'il est possible éventuellement de faire. C'est pas arrêté. En revanche, sur l'îlot Tribucien, ça me semble important de travailler sur ce levier-là.
Alors, on reviendra sur les mobilités plus tard en fin d'émission. Tout autre sujet qui concerne la ville, mais aussi l'État. Quel avenir pour l'ancienne maison d'arrêt de Caen? Où est-ce qu'on va y retrouver des logements à terme?
Alors ça va devenir concret, puisque ce terrain appartient donc à l'État. C'est une emprise de 18 000 m2, hein, c'est grand. Hein. Et donc l'État a lancé un appel à projet, depuis qu'on sait que maintenant la prison est définitivement désaffectée, depuis 2024. Et les porteurs de projet avaient jusqu'au 29 mai dernier pour rendre leur copie. Donc elle est rendue aujourd'hui. Les services de l'État avec les nôtres sont en train d'analyser les différentes offres que je n'ai pas encore vues. Je sais qu'elles sont au nombre de 5, mais je les ai pas encore vues. Et donc avant la fin du mois de juin, nous allons avoir des réunions avec les services de l'État pour déjà faire une première étude pour voir ce qu'il en est. Et donc ça veut dire que le choix définitif sera opéré à l'automne au plus tard de l'opérateur qui aura la reconfiguration. Qu'est-ce qu'on souhaite ici? Moi, ce que je souhaite, c'est du logement, bien sûr, mais avec cette volonté de conserver au maximum le bâtiment. Moi, j'ai un attachement, je trouve, évidemment, il faut l'imaginer sans barreaux, etc. Mais je pense qu'il a une vraie qualité architecturale.
Il y a donc aussi une dimension mémorielle importante.
Mémorielle. Alors, dans l'appel à projet, il y avait évidemment la création de logements, l'obligation de garder le mémoire de ce site. On a encore fait une cérémonie magnifique le week-end dernier. Ce site-là, il a une valeur particulière. Les courettes, etc., seront absolument conservées. Ça, c'est le lieu de mémoire également. Cette volonté aussi de l'ouvrir, puisqu'aujourd'hui, il est complètement fermé par un grand mur. Cette volonté de l'ouvrir avec le développement des espaces verts, etc. Voilà, ça, c'était le cahier des charges. Aujourd'hui, je suis pas encore en mesure de vous dire si les réponses correspondent à ce que j'y attends. Moi, dans mes rêves les plus fous, on garde le bâtiment, on fait des logements à l'intérieur, avec une mixité d'usage, etc. Peut-être qu'il y aura des situations mixtes où on garde une partie du bâtiment. Il faut bien, alors je sais, fort heureusement, les Canets le connaissent très peu de l'intérieur. Mais il y a une coupole absolument magnifique dans ce bâtiment, et j'espère qu'on sera en capacité de la garder.
Et donc il y a 5 projets à étudier. Autre bâtiment pour lequel l'État a la main, c'est cette tour du CHU dont on a dit qu'elle devrait être démolie. Mais quand?
Alors ça va prendre du temps. Autant la maison d'arrêt, une fois que le projet va être retenu, les choses vont aller assez vite. Hein. Donc c'est un projet qui sera, je pense, bien entamé évidemment dans ce mandat-là. Autant le CHU, ça va être, à mon avis, plus long. Aujourd'hui, on est au stade où tout le monde s'est mis d'accord sur l'idée que l'option retenue, c'est la démolition. Pourquoi? Moi aussi, j'ai un attachement à ce bâtiment. Parfois, on me dit, ah bah oui, mais c'est le phare de Caen. Je l'ai toujours connu. Et quand je pars en vacances et que je reviens avec mes enfants, on dit, ah bah ça y est, on arrive à Caen parce qu'on voit le CHU. Quand je vais parfois au Havre voir mes voisins havrais, on voit parfois le CHU quand il fait beau. Donc, évidemment, mais cet attachement parfois affectif ne doit pas masquer le fait que, un, la rénovation est extrêmement coûteuse, et deux, que, objectivement, moi, à titre personnel, j'ai pas envie d'aller vivre dans la tour du CHU. Et je vois pas pourquoi j'imposerais à d'autres d'aller y vivre, alors que moi, à titre personnel, parce que si c'est pour y mettre des balcons, tout ça, on perd la qualité architecturale de ce bâtiment. Et donc, on est tous d'accord sur la démolition. Elle est extrêmement coûteuse, 90 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est à l'étape la plus complexe, c'est le financement de ces 90 millions d'euros.
À l'État de financer
De manière largement majoritaire, oui. C'est son bâtiment, c'est son territoire. Moi, j'ai jamais été opposé à l'idée d'accompagner ce mouvement, mais dans des proportions minimes. Et donc, c'est là-dessus, parce que les principes, c'est bien beau, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à savoir quelle est la clé de répartition financière.
Donc c'est un sujet que j'ai évacué. Comment ? Pas de calendrier pour le moment.
Non, pas tout de suite. Mais il faut avoir en tête aussi que plus on va attendre, plus la démolition sera coûteuse. Parce que le bâtiment va s'abîmer.
Est-ce que vous réfléchissez déjà à quoi construire sur le site?
Alors ça, c'est évidemment, parallèlement à cette idée de la démolition, il a été mené par le CHU, puisque c'est lui aujourd'hui qui est propriétaire de ce terrain, une pré-étude de la manière dont serait réorganisé cet espace. Donc c'est un espace évidemment qui est très grand. Hein. Rien que ce qu'on appelle la galette, c'est-à-dire la tour et ce qu'il y a autour, c'est 4 hectares, rien que ça, hein, avant même les parkings. Et donc évidemment que le jour où le CHU sera démoli, la tour du CHU, l'espace ici sera reconfiguré avec cette volonté d'avoir une mixité d'usage, c'est-à-dire du logement, l'activité tertiaire, c'est assez grand, peut-être une reconfiguration puisque les parkings aujourd'hui sont le long du boulevard alors qu'ils auront plus vocation à terme d'être plutôt près du nouveau CHU qui sera donc derrière l'actuel. Donc oui, il y a une pré-étude qui a été menée pour savoir quelle était la capacité en logement, etc. de cet espace-là.
Donc là, on parle quand même plutôt de moyen long terme.
Allez, pour moi, je vois pas le... je m'avance, mais je vois pas le CHU démoli avant au moins 10 ans.
D'accord. Tout près de ce CHU, la zone Montcoco vous intéresse particulièrement. C'est une zone à reconquérir.
Oui, alors elle, pour le coup, elle va bouger plus vite que ce qu'il y a en face d'elle, c'est-à-dire la zone du CHU, puisque là, les premières opérations seront menées dans ce mandat, notamment la création du parc, puisqu'à l'intérieur de cette zone, qui est une zone avec beaucoup de logements, c'est une zone quand même qui est assez dense. Je dis ça parce que ça veut dire qu'ici on n'a rien de construit, mais on aura plutôt une zone avec des immeubles entre 5 et 7 étages, ce qui est un peu plus haut que ce qu'on fait, mais bon, c'est une zone nouvelle. Et à l'intérieur de cette zone, on a la création d'un parc d'un peu plus de 4 hectares et demi en zone de cette quartier, justement pour le faire respirer. On a aussi des activités tertiaires, et là pour le coup, les premiers coups de pioche seront menés sur ce mandat-là. C'est difficile de vous dire si c'est dans 18 mois ou 2 ans. C'est très difficile de vous dire ça parce qu'il y a encore pas mal de choses administratives à régler. Mais les choses vont avancer avec cette volonté de créer du logement, de créer ce parc de 4 hectares et demi et d'avoir aussi de l'activité tertiaire dans cette zone.
C'est une manière de répondre aussi à cette demande de logement qui manque.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que cette zone, elle est vue comme une des réponses importantes aux besoins de logement qui est réel sur Caen. Mais quand vous parliez tout à l'heure de la prison, la création de logement, c'est aussi un enjeu sur cet espace-là. Pour répondre effectivement à la demande importante, on a une vraie tension aujourd'hui sur Caen. Et donc, il faut qu'on augmente, il faut qu'on continue à construire des logements. Et cette zone de Montcoco, on est quand même parti sur 75% de ce qui sera bâti, ce seront des logements. Et 20%, 25% seulement pour les activités. Donc oui, on en a besoin et ça va répondre comme vous en avez parlé dans votre introduction, le projet Cascade, dans lequel aussi on a du logement, alors plus près de vos locaux, près de la gare de Caen, où là, évidemment, là aussi, les opérations, elles se pensent vraiment dans cette volonté de répondre aux besoins qui est réel à Caen, comme on va réactiver la zone Beaulieu, qui est la zone qui suit le stade d'Ornano, où on va prendre un arrêt, puis il ne se passe plus rien jusqu'à la Madrerie. Ici, on va réactiver la construction de logements également.
Autre zone à reconquérir, la Presqu'île, on va en parler tout à l'heure. On marque une deuxième et dernière pause pendant cet entretien. On revient avec d'autres sujets, donc la Presqu'île de Caen, et puis vous allez répondre aux critiques émises par votre opposition au sein du Conseil municipal. A tout de suite.
Leur parcours, leur projet, leur ville, les maires se livrent sur Tendance Ouest.
De retour avec Aristide Olivier, le maire de Caen, avec nous depuis midi pour échanger autour de son projet pour la ville. Alors, juste avant de se quitter, on parlait des zones à reconquérir. Donc, la zone Montcoco et maintenant la Presqu'île. La Presqu'île de Caen, où on pourrait voir émerger des logements en lien, bien sûr, avec Caen la mer. La dimension maritime de Caen, vous la mettez régulièrement en avant, au point de vouloir faire revenir le week-end maritime, grand moment du millénaire.
Oui, ça fait partie pour moi de l'héritage du millénaire. Avec une fréquence certainement tous les 3 ans, parce que c'est beaucoup d'organisation, c'est aussi coûteux, hein, pour garder ces vibrations. Ce que je souhaite, c'est, on a vécu une année exceptionnelle, vraiment c'était une année assez dingue, et je veux pas que ce soit une année et puis plus rien. Je veux qu'on puisse prolonger l'effet millénaire, et je pense vraiment que ce week-end maritime, il a en plus cette volonté de réaffirmer justement que Caen est une ville qui est ouverte vers la mer. Il y aura d'autres moments, hein, je les présenterai en temps et en heure, qu'on gardera dans l'héritage du millénaire, mais le week-end maritime, c'est sûr.
Il reviendra quand, ce week-end maritime? Est-ce qu'on peut déjà annoncer la prochaine édition?
Soit en 2028, soit en 2029.
Et alors, les autres moments qui reviendront, ce seront lesquels?
Des grands moments de rassemblement. Je crois vraiment que ce qu'on a vécu autour du château, autour de la clôture devant l'hôtel de ville. Ce sont des moments où on a partagé cette fierté d'être cannais. Donc on va les renouveler, pas forcément au même site, pas forcément dans la même manière, mais je veux qu'on garde des grands moments populaires. J'aime bien ce terme. Pour moi, il est plutôt positif. Il est même totalement positif. Et je veux qu'on crée ces moments où, quand on sort, on dit « Waouh, on est quand même dans une ville qui vit et qui en plus est belle. »
Il faut cultiver la fierté d'être cannais.
Oui, ça je l'ai souvent dit, donc j'y crois beaucoup.
Un point que nous n'avons pas évoqué ensemble, et pourtant c'était un cap clair de votre projet pour Caen, celui de la sécurité.
Oui.
Sujet d'actualité, car demain le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Jean-Didier Berger, vient à Caen. Il rencontre policiers nationaux et municipaux, mais il doit aussi échanger avec vous sur le thème de la sécurité du quotidien. Qu'est-ce que vous allez lui dire ?
Je vais lui dire que à Caen, c'est une ville où globalement on vit en sécurité et que j'ai bien l'intention que ça continue. Et que pour cela, j'ai besoin de lui, parce que j'ai besoin qu'il conforte les effectifs de la police nationale sur Caen, même si on a moins de difficultés que parfois ailleurs. Nous avons pris des engagements forts, très forts, puisqu'on va augmenter de 50% les effectifs, on va doubler les caméras de vidéoprotection, on va augmenter l'éclairage public dans les zones qui peuvent poser des difficultés. J'ai besoin que le projet de loi qui est porté, qui vient d'être reculé à l'automne, pour que ce soit plus simple pour la police municipale d'agir et qu'elle perde moins de temps, puisse aboutir et lui montrer qu'ensemble, on a la capacité de faire et de maintenir cette qualité de vie à Caen, avec cette volonté d'agir tout de suite, c'est-à-dire de lutter contre, ça démarre à l'incivilité jusqu'à la délinquance, et on ne pourra réussir qu'ensemble. La police municipale n'a pas le pouvoir d'investigation, elle ne l'aura jamais, ça c'est normal. Mais j'ai besoin qu'il puisse avancer sur le projet de loi. Pourquoi faut que ce soit plus simple ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un policier municipal, si ensuite on s'aperçoit qu'il y a des difficultés, il va le transmettre, l'individu, à la police nationale. Ça peut prendre parfois une heure et demie, deux heures. Mais c'est deux heures de perdu.
C'est trop long aujourd'hui.
Bien sûr, c'est beaucoup trop long. On est bloqué. Bien sûr que je le demande pas à ce qu'il ait les mêmes capacités qu'un policier national. C'est pas ça le sujet. Et donc je lui dirai tout ça demain. Je crois qu'il vient à Caen parce qu'il a conscience aussi qu'ici il y a une écoute attentive sur ce sujet-là. Moi, ma volonté, c'est pas de dire c'est à l'État de tout faire, nous on fera rien. La preuve, je me suis engagé sur des mesures très fortes dans ma campagne. Elles seront menées parce que j'ai besoin d'agir avec les leviers qui sont liés, mais j'ai aussi besoin de lui.
Et justement, vous dites Caen est une ville sûre, mais oui, il faut en faire plus.
Oui, parce que c'est une ville sûre, si on se compare aux autres grandes villes, oui, on a des bien meilleures statistiques que les villes voisines de Rennes, de Nantes, de Rouen. Oui, on a des meilleures statistiques, mais en revanche, on a aussi des évolutions négatives. On a des trafics qui se développent, et donc ça, les trafics, par exemple, c'est le pouvoir de la police nationale. Et il faut qu'on aille plus vite dans le traitement de ces affaires, parce que je crois que si aujourd'hui, quand tire son épingle du jeu, c'est en partie parce qu'on y va en sécurité. J'ai vraiment l'intention que ça le reste.
Un sujet qui vous oppose avec votre position, justement, c'est le doublement des caméras de vidéosurveillance. Vous croyez vraiment à leur efficacité ?
Ben, j'y crois. C'est les faits qui montrent que c'est efficace. C'est pas moi qui y crois. D'ailleurs, mon opinion n'est pas uniforme sur ce sujet-là. Certains pensent qu'il faut s'arrêter là, d'autres qui pensent qu'il faut l'en retirer. Moi, je crois aujourd'hui que j'ai jamais promis que les caméras permettait de tout résoudre. Je dis simplement que dans le traitement des affaires, dans la poursuite d'individus, dans l'anticipation de faits de délinquance, c'est aujourd'hui un outil dont on ne peut pas se passer, puisque la délinquance, elle évolue. Évidemment qu'on ne règle pas tout avec les caméras. Mais en revanche, chaque année, c'est plusieurs centaines d'actes qui sont soit évités, soit qui permettent un traitement judiciaire. Donc je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, alors qu'aujourd'hui, c'est indispensable.
On va revenir justement sur les critiques que formulent les élus de gauche sur votre politique. Vous avez été récemment alerté sur la chaleur dans les classes pendant la canicule. Pour rappel, il a fait jusqu'à 33 degrés à Caen, c'est un record pour un mois de mai. Une chaleur insupportable dans les salles de cours d'après Arthur Delaporte, député et conseiller municipal. Est-ce qu'il faut engager des travaux d'urgence dans les écoles ? Quel est votre point de vue ?
J'ai répondu à ce sujet-là. D'abord, oui, j'ai bien constaté qu'il avait fait chaud sur Caen et que ça va se reproduire. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, ce sujet-là, il ne doit pas se limiter aux écoles. Je veux dire, pour les personnes seniors, c'est aussi une période qui est difficile quand on a de fortes chaleurs. Il y a deux réponses. La réponse, elle doit d'abord être structurelle, c'est-à-dire faire en sorte que de préparer la ville à ces enjeux climatiques, c'est ce qu'on a fait. L'opposition a beau dire le contraire, Les faits, là encore, il y a que les faits. Quand je me compare aux autres villes, on a investi bien plus que les autres dans la rénovation de nos bâtiments scolaires pour justement qu'on ait des bâtiments qui permettent de mieux résorber les questions de chaleur, qui à l'inverse, d'ailleurs, l'hiver, sont pas non plus des salles trop froides. On n'a jamais autant investi pour végétaliser les espaces publics, donc pour amoindrir le choc et permettre des îlots de fraîcheur. Je veux dire, on peut dire qu'on n'en fait jamais assez, ce qui est vrai, et c'est le rôle peut-être de l'opposition. Ce qui est sûr, c'est que des villes qui ont les couleurs que supportent mes opposants, on fait moins. Ça, c'est les faits et c'est incontestable. Donc ça, c'est des mesures structurelles. Les écoles resteront le premier budget d'investissement. On va en livrer 4 dans le mandat, hein, des nouvelles écoles. Et on a aussi renforcé les budgets de rénovation au quotidien. Là où d'ailleurs, où l'opposition qui aujourd'hui me critique, les avait baissés quand ils étaient aux responsabilités. C'est-à-dire qu'on est passé de 500 à 1 million d'euros chaque année pour moderniser nos équipements, donc pour les préparer. Ça, c'est le structurel. Et je pense vraiment que quand on est dans le timing, on n'est jamais trop, on n'en fait jamais trop. Ou alors, à l'inverse, on va toujours me dire que j'en fais jamais assez. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, quand on est pleinement engagé, et on n'a pas du tout à rougir, que ce soit sur la végétalisation ou la préparation des bâtiments. Et l'autre levier, sur lequel là on a encore un travail à mener, c'est parfois des réponses immédiates dans des pics comme on l'a là, c'est-à-dire quand on a une alerte qui est posée. D'ailleurs, je précise que sur ce cas-là, on n'a jamais été en alerte orange.
Mais en alerte jaune.
Oui, mais ça, alerte jaune, on y sera fréquemment, comme on y est souvent pour le vent, comme on y est souvent pour la pluie, mais... D'ailleurs, je suis assez étonné qu'on ne soit pas passé en alerte orange, vu ce qu'on a observé, mais on avait des nuits qui, effectivement, permettaient de ne pas passer en alerte orange.
Les journées étaient chaudes.
Et là, j'ai demandé au service de la ville, on sera prêt pour la rentrée, d'avoir des réponses qui permettent d'amoindrir l'immédiateté de la chaleur. Alors, j'ai bien vu que mon opposition disait qu'on a un thermomètre dans chaque pièce, bon, qu'il fasse 30 ou 33, il fait chaud dans la pièce. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui compte. C'est comment, par exemple, dans chaque école, au-delà du fait de la végétalisation des cours, ça on l'a déjà engagé, quand je vous parlais de mesures structurelles, on en fait 2 par an et on va continuer évidemment, on puisse avoir une pièce intérieure qui soit identifiée comme une pièce de fraîcheur. Ça, j'ai demandé au service qu'on établisse ça pour voir comment on peut faire parce que on aura un cadre général et ensuite on sait bien qu'on aura autant de réalités que les 30 groupes scolaires de Caen. Mais oui, on sera prêt et je le dis, c'est pas dans les écoles qu'on a le plus de difficultés. Parce que les écoles en juillet-août, elles sont fermées. Donc c'est pas là où on va avoir les pics qui se reproduisent. En revanche, les crèches, les centres d'animation, qui eux sont ouverts tout l'été, puisque les écoles sont au contraire fermées. Les établissements qui accueillent des seniors, il faut pas qu'on limite notre analyse du court terme, de la réponse à ces établissements-là, et on sera prêt à la rentrée pour justement faire en sorte qu'on ait une réponse adaptée.
Ces îlots de fraîcheur, justement, où est-ce que vous allez en créer durant ce mandat ?
Alors on a enfin le Jardin République qui va aboutir après ces longues années. Donc
en plein centre-ville.
En plein centre-ville. Et on va aussi les multiplier à l'échelle de l'ensemble des quartiers. On va planter 10 000 arbres. L'îlot Robillard, par exemple, à la grâce de Dieu, je l'espère pouvoir le transformer dans un parc plutôt agréable. Là, on va livrer d'ici quelques semaines la rénovation du parc de Secqueville, qui a été repensé avec la plantation de plus de 100 arbres. On va continuer. Caen est la 8e ville verte de France. On a 2 fois plus de mètres carrés d'espace vert par habitant que la moyenne nationale. Eh bien, on va continuer. Et on va en plus y ajouter une dimension supplémentaire, c'est que je veux pas simplement végétaliser, je veux fleurir. Je veux que la ville soit belle et qu'elle soit colorée. Donc on va le faire, et je le dis effectivement, pas que dans le centre-ville de Caen. On va faire en sorte que, avec les conseillers de quartier, on identifie dans chacun des quartiers où on peut le créer, comment on peut le créer. Ce qu'on avait d'ailleurs fait sur le mandat précédent. Hein. On a végétalisé, sur le mandat précédent, plus de 13 hectares. C'est énorme, 130 000 mètres carrés qui étaient avant bétonnés, maintenant ils sont végétalisés. Et on a fait d'ailleurs là aussi beaucoup plus que ceux qui ont soi-disant la bonne étiquette politique. Et donc on va continuer ce mouvement parce que quand, qui a déjà des atouts dans ce point de vue-là, hein, la prairie, l'espace entre la prairie et Louvigny, où on a planté 10 000 arbres déjà ici, hein, la colline aux oiseaux, etc., faut qu'on donne le nouvel espace mon coco. On va faire en sorte que, justement, on soit engagé, qu'on végétalise et qu'on plante des arbres à Caen.
Pour conclure, passons à la question de la mobilité, qui est d'ailleurs liée à la question environnementale. Vos opposants disent qu'il faut profiter des travaux du tramway pour aller plus loin et créer encore plus de pistes cyclables pour encourager toujours plus l'usage du vélo en ville. Est-ce que vous avez le sentiment d'en faire assez sur ce sujet ?
Là aussi, c'est un peu comme sur les questions de transition écologique. On pourra toujours dire qu'on n'en fait jamais assez puisque le phénomène de réchauffement va plus vite. Mais vous permettrez, sur un œil un peu malicieux, de pointer une forme de contradiction parce que à la fois faut en faire plus, mais fallait pas faire le tram, selon eux, à la fin. parce qu'ils ont beaucoup changé. D'ailleurs, pas tous, là aussi, mon opposition n'est pas du tout uniforme sur ce sujet-là, mais on va quand même... Le tram, c'est 10 km de pistes cyclables, parce que partout où passe le tram, on aura en même temps la création de pistes cyclables. Le tram, c'est quand même un moyen, justement, sûr... confortable et qui nous engage dans cette transition. D'ailleurs, 70% en plus du tram, de la, même si aujourd'hui, j'en conviens, les gens ne se rendent pas compte, à part les travaux, sera totalement végétalisé. On va, au-delà, créer encore des pistes cyclables, notamment la fin du périph' nord-sud, est-ouest, pour que les choses soient accessibles correctement en vélo. Oui, je pense que là aussi, on est dans le bon tempo, avec cette position qui est équilibrée. C'est ce qui m'oppose d'ailleurs avec mon opposition. Je crois à l'équilibre, je ne suis pas un anti-voiture, mais je crois qu'on peut concilier de rendre la ville accessible en voiture tout en développant les mobilités douces.
Et rapidement, où sont les futurs projets cyclables dans Caen ? Où est-ce qu'on va avoir des pistes cyclables dans les années à venir ?
Alors, on a la poursuite, la fin de l'axe où on est en travaux, par exemple, sur la rue de la Délivrande aujourd'hui. Sauf qu'après, ça s'arrête net à la fin de la rue de la Délivrande. Donc, ça fait partie là d'un des axes importants nord-sud qu'on doit finir. Donc, à partir de la rue de la Délivrande jusqu'à... Alors, c'est pas encore totalement arbitré. Est-ce que c'est la rue Saint-Jean ? Est-ce que c'est l'avenue du 6 juin ? Là, on a un axe structurant. Et puis ensuite, on va avoir beaucoup de connexions à créer. On a créé beaucoup de pistes cyclables. Il nous reste les connexions à créer. Et ça va être tout l'objet de ce mandat.
Ce sont des projets de ce mandat.
Ah oui, bien sûr.
Là, on parle du centre-ville de Caen. Est-ce qu'il y a aussi...
Ah non. Là, c'est sur la ville de manière générale. Par exemple, on a toute la partie aussi, ce qu'on appelle la rue de la Hache. C'est-à-dire là où il y a la SPTT, le gymnase de la Hache, le cimetière aussi. Là aussi, on va avoir une grande création de pistes cyclables qui va aller jusqu'à la Pierre-Rosée, jusqu'à Saint-Jean-Eudes. Là, en ce moment, on a des travaux de pistes cyclables à travers l'université. Non. Les projets, ils sont dans toute la ville. De toute façon, pour faire 30 km de pistes cyclables, c'est pas possible qu'on centre-ville.
Merci Aristide Olivier d'avoir répondu à toutes nos interrogations ce midi sur Tendance Ouest. Si vous avez raté une partie de l'entretien, le replay est à retrouver dès le milieu de l'après-midi sur les plateformes d'écoute et sur podcast.tendanceouest.com. Je vous souhaite de passer une excellente journée.